Donc nous pouvons retrouver la parole de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Ou vous pouvez écouter. C'est bien d'avoir le texte avec soi. Oui, ah pardon. Merci. Donc faites tout pour la gloire de Dieu, c'est un petit peu la synthèse de notre texte de ce matin, de cette série. Donc un texte dans un contexte, il y a une question que posait l'église de Corinthe il y a bientôt 2000 ans de cela, le temps est passé, mais la question était, est-ce que c'est un problème de manger les viandes qui proviennent de sacrifices qui ont eu lieu dans les temples d'idoles, donc puisque c'était l'idolâtrie qui était généralisée à ce moment-là, on pouvait le voir ça à travers les nombreux temples qui avaient été montés, créés. Et puisque ces idoles, ce sont finalement que des fabrications humaines, ça n'a pas de vie, ça ne bouge pas, ça ne répond pas aux prières, et cela est vrai. Paul a d'abord répondu que les chrétiens qui ont une foi qui était faible pouvaient être ébranlés en voyant un frère dans le Seigneur consommer des viandes qui viennent de temples d'idoles. La conversion fait un tel bouleversement et on veut vraiment se détourner de tout ce qui se rattache de près ou de loin à l'ancienne vie. Et ne pas ébranler la foi des jeunes frères en Christ, des sœurs en Christ, c'était une raison suffisante pour renoncer à consommer la viande. Ça, c'était la première partie de la réponse de Paul. Mais maintenant, il veut aller plus loin et il veut mettre en garde les chrétiens qui se voient forts à cause de leur connaissance. Attention, une idole peut en cacher une autre. Vous savez, il y a les trains. Quand ils passent comme ça, un train peut en cacher une autre. Et avant, il y avait ces panneaux qui mettaient en garde parce que quand un train qui arrive, comme ça, on voit arriver le train. Mais peut-être dans l'autre train, il y en a un autre qui arrive derrière et qui est beaucoup plus dangereux et qu'on n'a pas vu. Une idole peut en cacher une autre. Et donc, les idoles ne se trouve pas que chez les païens. Ce sera le titre du message de ce matin. Les idoles ne se trouvent pas que chez les païens. Alors on va lire notre texte de le premier épître aux Corinthiens, chapitre 10, donc. 1 Corinthiens 10, excusez-moi, je ne vous ai pas dit le texte avant. On va lire les 14 premiers versets du chapitre 10. Je vais lire dans la traduction Nouvelle Bible Seconde, mais vous pouvez suivre dans la vôtre. C'est assez un texte qui est assez facile à suivre dans toutes les traductions. 1 Corinthiens 10, verset 1. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés à travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême à Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Verset 5. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, et il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent, et les serpents les firent disparaître. Ne maugréez pas, comme certains d'entre eux maugréèrent. Le destructeur les fit disparaître. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune preuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il prépare, il ménage aussi une issue, pour que vous puissiez la supporter. Aussi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, quoique ces textes aient été écrits il y a bien longtemps, et toute la Bible, nous voulons de le lire et pour notre instruction, pour nous donner des exemples et pour nous faire grandir et nous protéger du mal et du malin. Seigneur, permets que je puisse m'exprimer de façon claire et que chacun et chacune en puisse bien comprendre les choses que toi tu veux dire à travers ce texte pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus, amen. Si je pouvais, j'ai essayé de résumer ce passage en trois phrases pour nous ce matin. Notre situation n'est pas si différente des Israélites de jadis dans le désert. On a l'exemple que beaucoup ont eu de mauvais désirs jusqu'à l'idolâtrie. Alors soyons sur nos gardes et grâce à Dieu, fuyons l'idolâtrie. Notre situation n'est pas si différente de celle des Israélites de jadis. En quoi n'est-elle pas si différente? Verset 1. Avons-nous été baptisés? Eux aussi, en quelque sorte, ils ont été baptisés. Les Israélites avaient tous appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes à leur sortie d'Égypte. Tous ont traversé la mer Rouge et tous ont été gardés et conduits par Dieu lui-même à travers la nuée. Avons-nous été baptisés eux aussi en quelque sorte? Prenons-nous le repas du Seigneur eux aussi en quelque sorte? La manne était un aliment réel, mais elle était donnée par Dieu lui-même de façon surnaturelle. C'était donc un aliment spirituel. Et on peut faire le rapprochement avec un autre repas du Seigneur. Sommes-nous abreuvés de la source d'eau vive qu'est Christ, eux aussi? Comment plus d'un million de personnes dans le désert auraient pu survivre pendant 40 années sans eau? Il y avait, nous dit le texte ici, un rocher qui les suivait et cela a été donné directement par Dieu. Et vous savez, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les sources d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Sommes-nous abreuvés de la source d'eau vive qu'est Christ, eux aussi? Eux aussi avaient des privilèges. Et malgré tous ces privilèges, beaucoup d'Israélites ont eu des mauvais désirs. Ils étaient loin de l'Égypte, ils étaient dans le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de temple, d'idole, rien, quoi que ce soit pour les distraire. Et pourtant, on a vu notre texte, ils ont succombé à des mauvais désirs. Et le premier que Paul met en avant, c'est l'épisode du veau d'or. Exode chapitre 32, versets 1 à 6. On va lire ce passage tranquillement. L'épisode du veau d'or. Donc Moïse est monté sur le Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Juste avant cela, il y avait eu une communion de Moïse et de 70 représentants du peuple avec Dieu. Et Moïse est monté ensuite. Verset 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, son frère, et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu, et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils sacrifièrent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. On comprend que c'était pas devant l'Éternel, mais que c'était devant le veau. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ce passage nous enseigne beaucoup de choses sur l'idolâtrie, en fait. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. L'idole est au service de l'homme. Paradoxalement, l'idole est au service de l'homme. L'homme s'établit des idoles, en fait, surtout pour le servir, lui. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Moïse nous a fait sortir d'Égypte. L'idolâtrie est un outrage au Tout-Puissant, car celui qui avait fait sortir le peuple d'Égypte, c'était l'Éternel. C'était clair et connu de tous. Mais aussi, ici, ils disent, c'est Moïse. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse. Là aussi, c'est un mensonge. Ils savaient très bien qu'il était sur la montagne à ce moment-là. Tous ôtèrent leur anneau d'or. Les hommes se payent et se fabriquent des idoles. Quand il n'y en a pas sur place, ils étaient au milieu du désert, pas de problème. Voilà, on se cotise, on se met de l'argent et on va se faire une idole à nous. Pour nous, le peuple mangea, but et se divertit. Ils ont fait la teuf, comme on dit aujourd'hui. Être idolâtre, c'est trouver sa joie dans des choses après avoir poussé l'Éternel dehors. On pousse Dieu dehors et on trouve sa joie malgré cela. Ça, c'était le verset 7. Le verset 8, « Nous ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle. » Ça, c'est le livre des Nombres, chapitre 25, versets 1 à 3. Ils sont pas très loin de la terre promise. Ils ont passé les 40 années dans le désert. Et là, ils sont en chemin. Nombre 25. Israël demeurait à Sittim, mais le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Le mal de l'immoralité sexuelle. Alors, on voit ici le lien entre l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle dans notre texte. Pourtant, notre monde dit, c'est pas si mauvais que ça, l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, c'est ça. Hein, ça donne de la joie, ça donne des sensations agréables, tant qu'on ne se fait pas prendre. Et pourtant, c'est une mauvaise chose. Je voudrais le rappeler ce matin. La sexualité en dehors du cadre privé du mariage est mauvaise, car elle détruit la famille, la cellule familiale. D'abord, elle empêche bien souvent qu'il y ait des cellules familiales qui se forment. Elle empêche cela dès le commencement. Et puis quand il y en a une qui est là, elle va détruire les relations d'amour et de confiance qu'il y a dans une famille. Et cela fait évidemment beaucoup de souffrance, et ce sont les enfants qui sont les premiers atteints et les plus durablement atteints. La cellule familiale est le lieu où se reproduit la vie et l'immoralité sexuelle s'attaque à ce fondement que Dieu a mis en place. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et Dieu va réagir à cela chaque fois. Verset 9. Ne provoquons pas le Christ comme certains d'entre eux le firent et laissèrent pas les firent disparaître. Ça, un petit peu avant, nombre 21, 4 et 5. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et il parlait de la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il y a, comme dans le cas du veau d'or, un manque de patience et de persévérance qui sont là. On avance trop lentement, la bouffe n'est pas bonne, on mange toujours la même chose, le compte n'y est pas. Je ne suis pas satisfait. Il faut changer de Dieu, il n'est pas à la hauteur, on nous a trompés. Or, Dieu... Et il le savait, et on le sait, est le Créateur. Et nous lui devons absolument tout ce que nous avons. Le mal de tenter le Seigneur, de mal parler de lui. En fait, le dernier mal, c'est mon gré. Le mal de dire du mal à voix basse. Mon gré, dans la traduction, manifester son mécontentement, sa mauvaise humeur en protestant à mi-voix. Peut-être on pourrait traduire ça en ronchonner ou râler. Et ça, ils ont fait ça très très souvent, le peuple dans le désert. Ils ont fait ça très régulièrement, dès le départ et à plusieurs étapes. Et là, on voit que c'est la première étape qui prépare à la suite, en fait. On commence à murmurer contre Dieu. Et puis, après, l'étape d'après, c'est le défier ouvertement. Et puis, de rejeter tous ces commandements et d'atterrir à la fin jusque dans l'idolâtrie. Alors, on comprend que l'apôtre Paul, au verset 12, ainsi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Soyons sur nos gardes. Les Israélites, je l'ai déjà dit, n'avaient pas de temple d'idole et pas d'idole dans le désert. Ils étaient gardés et conduits par Dieu lui-même, qui prenait chaque jour soin d'eux, et pourtant, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont enfreint d'un seul coup les trois premiers commandements donné par Dieu juste un mois auparavant. Le Seigneur dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Ça vient de l'intérieur. Dans ces paroles de Jésus, on voit qu'il y a une progression, les mauvaises pensées, puis les adultères, puis la débauche, et pourquoi pas aller jusqu'à tuer. On a là l'inverse dans la présentation de Paul. Et le dernier, donc, ne pas dire du mal à voix basse, ne pas murmurer. Et c'est là un petit peu le commencement pour nous de l'étape vers l'idolâtrie, c'est murmurer contre Dieu. Rouspéter contre lui. Chaque fois que l'on peut avoir des mauvaises pensées contre Dieu, ben il faut vraiment réagir à ce moment-là avant que ça s'aggrave. Par rapport aux idoles, si on mène une petite réflexion, où sont les idoles aujourd'hui? Le réformateur Jean Calvin disait que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Notre cœur a tendance, nature déchue, à se payer des satisfactions, des joies, sans que Dieu soit au centre. Je cite Tim Keller dans son ouvrage « Les idoles du cœur », dont je recommande la lecture à chacun d'entre nous. Il développe très bien ce sujet. Tim Keller a écrit « Le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille, et les transforme en des biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront de l'importance, la sécurité, la protection, l'épanouissement si nous parvenons à les atteindre. Or, avant nos conjoints, avant nos enfants, avant nos maisons, avant nos voitures, avant nos chaussures de marque, si nous en avons, quel est notre plus grand bien? Notre plus grand bien, c'est le Seigneur lui-même. Il a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10, versets 37 à 38. Le problème n'est pas d'aimer sa famille. Le problème est de dire à Dieu, j'ai trouvé mieux que toi. J'ai trouvé mieux que toi. Alors que c'est lui qui nous donne père, mère, enfant, qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour notre joie. Et bien sûr, il est forcément plus grand que les dons qu'il nous fait. On peut se le rappeler encore une fois, l'Évangile. Dieu, en Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous. Et on ne peut pas concevoir un plus grand amour que celui-là. Cette folie que de dire à Dieu ou d'exprimer à travers nos vies, « Tu n'es pas à la hauteur, j'ai trouvé mieux que toi, va-t'en. » Et c'est ça, devenir idolâtre. Alors, fuyons l'idolâtrie sous toutes ses formes, collectivement et individuellement, bien entendu. Fuyons-la. L'apôtre Paul, dans sa sagesse, donne un encouragement face à notre faiblesse. C'est le verset 13. 1 Corinthiens 10, 13, c'est peut-être une référence que vous avez appris par cœur, et moi je recommande de l'apprendre par cœur. Aucune tentation qui ne vous est survenue, qui ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et non pas la surmonter, la supporter. Alors, il ne faut pas, bien sûr, incriminer Dieu par rapport à ces tentations, ces épreuves qui arrivent dans notre vie. Parce que Dieu nous garde, en fait. Dieu nous garde, la bonne nouvelle. Elle est là quand même. on chute, on fait surgir ou ressurgir des idoles qu'on croyait anéanties, qu'on croyait appartenir au passé. On abandonne le Seigneur, on lui tourne le dos, on pêche. Et Paul nous dit de ne jamais nous laisser aller à l'idée que, voilà, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, ces épreuves, ces tentations, ces mauvaises pensées qui arrivent. Je peux pas résister contre ça. Non, elles ne sont pas surhumaines. Aucune épreuve, tentation qui ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Par contre, à la différence des Israélites, nous avons en nous une force surnaturelle. C'est l'Esprit Saint lui-même pour nous aider à résister à ces tentations, à les supporter. On a chanté des chants et on a eu l'introduction qui nous a parlé de ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il est là, il nous protège, il nous garde. On a chanté également gardé par son amour. Donc, il y a un immense secours auprès de notre Dieu qui nous garde, même s'il doit envoyer des sanctions. On a vu que le peuple d'Israël, il n'a pas laissé le mal se propager. Chaque fois, il est intervenu. Et chaque fois, le Seigneur interviendra même d'une façon forte, si cela est nécessaire. Dieu garde le contrôle sur les circonstances. Dieu lui-même est digne de confiance. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve, tenté, au-delà de vos forces. Dieu garde le contrôle des circonstances et il interviendra s'il le faut pour nous sauver, tout simplement, nous empêcher de chuter. Il prépare lui-même une issue, il ménagera une issue afin que vous puissiez là supporter cette épreuve. Et il nous faut apprendre la patience. Et c'est vrai que si on n'a pas d'épreuve, si on n'a pas de tentation, on n'a pas d'occasion d'apprendre la patience. Dans le désert, le peuple d'Israël, c'était le grand défi qu'ils avaient, c'était d'apprendre la patience et la dépendance de Dieu. Et c'est ce qui leur posait, on a vu, beaucoup de difficultés. Mais Dieu nous garde. Dieu est avec nous et on peut vraiment le remercier et revenir à lui, lui demander qu'il nous mette à l'abri de toutes ces idoles qui peuvent sortir de notre cœur. Il nous demande de les fuir. Bon, il faut les identifier. Dans son livre, Tim Keller propose de réfléchir à ce qui nous donne de la joie et de la satisfaction lorsqu'on a été prouvé, lorsqu'il y a des choses qui vont pas, lorsque la journée se passe pas bien. Vers quoi on se réfugie? Qu'est-ce qui va nous apaiser? Vers quoi on va se tourner pour trouver la paix? Et là, ça permet d'identifier l'idole. Si notre paix, nous la trouvons auprès du Seigneur, dans la lecture de sa parole, dans se rappeler ses promesses, en chantant ses cantiques, nous sommes en sécurité. Mais si nous l'en trouvons dans d'autres activités où il est absent, on peut se méfier que là, peut-être, il y a une idole qui se cache au fond de notre cœur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'instruction de tout ce qu'on apprend à travers l'histoire du peuple d'Israël, que tu as permis qu'ils vivent des choses pour que nous aussi on se instruit des milliers d'années plus tard. Seigneur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes, depuis le commencement, ont voulu vivre leur vie sans toi et se débrouiller sans toi et trouver leur joie en dehors de toi. Seigneur, merci de garder notre Église, notre communauté des idoles, que l'on on puise vraiment toujours toute notre joie dans toi, dans ce que tu es, ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, merci pour ton grand pardon également, comment tu nous accueilles toujours les bras ouverts quand on revient vers toi, combien tu es à nos côtés quand il s'agit de brûler toutes ces idoles qui veulent prendre ta place. Seigneur, merci pour les frères et sœurs, la famille que tu nous as donnée également. Merci pour toutes les grâces et les bontés qui viennent de toi. Et merci de nous aider à continuer humblement notre pèlerinage sur la terre, en appréciant tous les bienfaits que tu nous donnes, tout ce qui est pour notre joie et pour notre bonheur. En te remerciant de les avoir donné en étant reconnaissant pour tout ce que nous avons, Seigneur, même si on trouve, notre cœur trouve que c'est pas assez, si ça vient de toi, c'est ce dont nous avons besoin au moment où nous le recevons. Et merci pour cette œuvre que tu fais dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, Amen.